Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts à écouter la parole? Dis à ton voisin, ouvre tes oreilles. Vous savez qu'on a deux types d'oreilles, hein? Dans les oreilles naturelles, vous allez tous entendre ma voix ce matin. Et je prie que tous entendent la voix. Dans le naturel, on entend les paroles. Dans l'esprit, on entend sa voix. Alors je prie qu'on se connecte au Saint-Esprit ce matin. C'est vraiment, je crois, un message de la part de Dieu. J'aime les messages qui sont prêchés en ce moment, ici à l'église. Je bénis Dieu pour cela. Je crois qu'il y a tout message, vous savez, qui est tiré de la parole de Dieu, qui tire sa source de la vérité de la parole de Dieu, est bon, il est là pour édifier, il est là pour équiper, il est là pour nous faire croître dans l'esprit. Il y a des messages bons et dans la saison. Ça fait beaucoup de différence. Je crois que en toute humilité, ce que je vais vous partager ce matin, ça je vous dis, ouvre tes oreilles. Je crois que c'est un message qu'il va falloir écouter et capter avec nos oreilles spirituelles. C'est un message qu'il faut recevoir dans l'esprit. Et c'est un message aussi, je le crois, prophétique dans le sens qu'il s'applique à la saison dans laquelle nous sommes. Nous vivons des temps très intéressants. Nous vivons des temps très particuliers. C'est des temps où l'ennemi se déchaîne, plus que jamais, parce que son temps est court, parce que son temps est compté. Mais c'est un temps où Dieu veut se déchaîner aussi. Encore plus que l'ennemi veut se déchaîner. Dieu est plus en feu que l'ennemi. Il est un feu dévorant. C'est pas une image dont on a l'habitude d'avoir au sujet de Dieu. Nous voyons un Dieu bon, quand nous pensons au Saint-Esprit, nous pensons à la colombe, nous pensons à un Dieu doux, un Dieu compatissant, rempli d'amour. Oui, il est tout ça. Mais Dieu est aussi un feu dévorant. Il est autant un feu dévorant que amour. Il est autant justice que bonté. Il est autant amour que sainteté. Et Dieu veut manifester des aspects de sa nature dans la fin des temps. Je crois que l'Église va connaître quelque chose qu'elle n'a jamais connu, dans le sens où Dieu va manifester sa nature comme jamais. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Percevoir pour recevoir ». Dans les deux mots, il y a le mot « voir », parce qu'il y a une clé. « Percevoir pour recevoir ». J'aimerais prendre un texte, Jean chapitre 9, qu'on connaît bien, c'est un miracle, que Jésus a accompli dans les évangiles. Il est dit ceci dans Jean 9, verset 1, « En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» Jésus répondit, « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue et lui dit, « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. » La piscine de Siloé était située à l'intérieur des murs de Jérusalem. Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure et, quand il revint, il voyait. Alors, pourquoi on va parler ce matin de percevoir pour recevoir ? Tout dans le royaume, absolument tout dans le royaume, se reçoit. Déjà, il faut comprendre ce mécanisme spirituel. Il n'y a rien qui tombe du ciel tout seul. Tout dans le royaume se reçoit. Jésus a fait ce que personne ne pouvait faire. Il a ouvert le chemin. Maintenant, il va falloir emprunter ce chemin. Tout se reçoit. Et la foi, c'est pour ça que la foi est tellement importante, parce que la foi, c'est le canal par lequel je reçois tous les trésors du royaume. Donc, la foi est cruciale. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'est la foi. On utilise la foi pour ce qu'elle n'est pas censée être utilisée. La foi, elle est basée, elle vient de ce que j'entends. Mais pas que j'entends n'importe quoi. Ce que j'entends vient de la parole de Dieu. On connaît tous un des premiers peut-être versets qu'on apprend dans notre vie chrétienne. Mais c'est la base, le juste vivra par la foi. C'est le seul canal par lequel je reçois les trésors du royaume. Alors j'avais pris cet exemple lors de mon message précédent, mais je vais le refaire parce que je crois que les images restent dans notre esprit. Si je demande à Pasteur Romaric, je dis à Pasteur Romaric, viens. Voilà, ça c'est la foi. Il est beau, hein? Merci Romaric. Voilà. La foi, c'est simple. Il a entendu ma voix, il s'est levé, il est venu. Voilà. Ça, c'est la foi. Donc la foi vient de ce que j'entends, mais la foi est surtout ma réponse appropriée à ce que j'ai entendu. Si je dis Romaric vient et qu'il reste sur sa chaise, il a entendu, mais il n'y a eu aucune réponse appropriée à ce qu'il a entendu. Ça n'a pas créé un mouvement. Et donc, ce n'est pas la foi. Cette foi-là, elle est morte. Jacques va parler de trois types de foi. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il n'y en a qu'une seule qui sauve. Et il n'y en a qu'une seule qui s'accapare les trésors du royaume. Donc, quelle est la chose que Dieu t'a dite ? On va y revenir, mais quelle est la dernière chose que Dieu t'a dite ? Parce que Dieu n'ira pas plus loin que la dernière chose qu'il t'a dite. Il ira plus loin quand tu auras obéi à cette chose. En fait, le royaume s'affermit dans ma vie, avance dans ma vie, s'établit dans ma vie à chaque pas d'obéissance. Donc, on reviendra sur tout ça. Mais quelle est la chose que Dieu t'a dit dernièrement? Ou que t'a-t-il déjà dit? Ou autre façon de le dire, qu'est-ce que tu vois en ce moment? Où sont tes yeux? Sur quoi sont posés tes yeux? La perception spirituelle, c'est-à-dire ma faculté à voir, ma faculté à discerner la vraie nature des choses, elle est rattachée à la voix de Dieu. Et dans l'esprit, entendre, c'est voir, et voir, c'est entendre. Vous savez, dans le naturel, c'est un peu pareil. Si je vous dis le mot arbre, notre pensée fonctionne comme ça. Vous allez voir un arbre. Le mot, la parole que vous entendez, produit une image. On est d'accord ? Et selon votre éducation, l'endroit où vous avez habiter, évoluer, votre culture, votre environnement, vous allez voir différentes choses. Ça s'appelle le filtre. Donc, pour que je puisse voir dans l'esprit, il faut que j'entende. Mais pas simplement, il faut que j'entende correctement. Il faut que mon filtre soit bon. Et le filtre, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible qui m'a été donnée. Plus j'ai cette Bible en moi, plus j'ai ces paroles en moi, lorsque Dieu va me parler, je vais pouvoir voir clair. Et voir l'image même que Dieu avait pour moi. On est d'accord ? Si je vous dis arbre, vous allez peut-être penser, je ne sais pas moi, à Olivier ici. Pensez à plein de choses, mais si je le dis dans des îles, ils vont penser palmier. Un palmier est un arbre, un olivier est un arbre. Les deux sont un arbre, mais l'image n'est pas la même. Or, Jésus, la parole incarnée, est venu, l'image parfaite du Père. Donc il est venu nous montrer à quoi ressemble le Père. Et il est la parole. Donc je vous dis dans l'esprit, voir, c'est entendre, et entendre, c'est voir. Habacuc 2.1, voici ce que dit le prophète. Je veillais, un mot très important que Dieu a déposé sur mon cœur aussi, que je partagerai dans les semaines qui viennent, Dieu voulant. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc je veille pour voir ce que l'Éternel me dit. Apocalypse 1.12, l'apôtre Jean dit, et je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Ça paraît bizarre. En français, on dirait il y a un problème là, dans la phrase. Il y a un problème de syntaxe, il y a un problème de... Ça ne va pas. Pour voir la voix qui me parlait. Psaume 40, verset 4. David, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Donc, dans l'esprit, quand j'entends clairement et que mon filtre est bon, je peux voir clairement. Je peux fixer mes yeux sur cette image. Donc, dans quel état est ta vision spirituelle? Dans quel état est ma vision spirituelle? Encore une fois, c'est crucial parce que dans le royaume, je reçois ce que je perçois. Je reçois ce que je perçois. D'ailleurs, c'est intéressant, le mot percevoir dans notre dictionnaire à nous, c'est saisir par l'esprit. Je ne parle pas d'un dictionnaire biblique là. Si vous ouvrez votre dictionnaire, percevoir, c'est saisir par l'esprit. C'est discerner. Mais aussi, je trouve ça intéressant, c'est collecter. encaisser. Quand on dit les impôts vont me percevoir, j'encaisse. C'est exactement dans le monde spirituel, c'est la même chose. Ce que tu perçois, tu encaisses. Tu reçois, tu collectes. Matthieu 6, verset 22. Je crois que c'est vraiment un verset actuel parce que le pasteur Matthieu a partagé deux messages sur l'esprit de Mammon. Ce verset est juste avant que Jésus dit « On ne peut pas servir de maître ». Il est dit ceci, « Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, » tout le monde dit « bon état ». Ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc, écoutez ce que dit Jésus, si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Il est possible que la lumière en moi devienne ténèbre. Comment est-ce possible? Perception spirituelle. Est-ce que ton œil est en bon état? L'expression « bon état » là, c'est le mot grec « apios » qui veut dire quelque chose qui est dirigé vers un seul objet, une seule vision, un seul focus, c'est l'opposé de voir double, c'est l'opposé d'être confus ou de voir flou. Alors, personnellement, moi je sais de quoi je parle parce que physiquement parlant, j'ai un problème à l'œil, ça s'appelle un kératocone, enfin, il y a plein de choses, très très très, très complexes, mais si je me mets à une certaine distance et qu'on me montre une lettre A, comme on fait là quand on fait nos tests pour nos yeux, moi, je ne vais pas voir un A. Je vais voir le A et je vais voir plein de A autour. Quelque chose de flou. Il n'y a rien qui est net. Ça, c'est un œil en mauvais état. La vision n'est pas nette, elle n'est pas claire. Je ne vois pas une seule lettre. Il n'y a pas un seul objectif. C'est ce qui est confus, ce qui est flou. Et l'apôtre Jacques va en parler. Jacques, à un moment donné, va répondre à ces chrétiens qui étaient persécutés, qui l'assaillaient. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On nous jette aux bêtes sauvages, on prend nos enfants. C'était la persécution totale et tout le monde assaillait Jacques. Alors Jacques, il va répondre dans sa lettre. Il va dire, considérez comme une joie de passer par cela. Bon, déjà, on peut dire, Jacques, tu dérailles un peu, là. Tu sais ce qu'on vit, mais Jacques vivait la même chose. Et il leur dit, voici, j'ai la solution pour vous. Il vous faut la sagesse de Dieu. Donc il faut demander la sagesse de Dieu. Demandez-la, il va vous la donner librement. Par contre, il faut la demander sans douter. Parce que voici ce que l'apôtre Jacques va dire, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent, qui est poussé d'un côté et de l'autre. Et voici ce qu'il dit. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Il est irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Donc c'est crucial, parce que je peux passer des heures et des heures et des heures à demander et à prier, mais si je doute, l'apôtre Jacques dit, ne t'imagine même pas que tu vas recevoir. Autant vous dire que c'est crucial, ce qu'il est en train de dire. Le mot irrésolu, c'est un homme irrésolu, c'est le même mot, c'est la même signification. C'est-à-dire celui qui est confus, celui qui voit flou. En fait, l'idée, c'est celui qui vacille, puisqu'il prend l'idée des flots de la mer. C'est celui qui vacille entre foi et doute dans sa vie spirituelle. Un coup, il croit que c'est possible, un coup, il croit que c'est plus possible. Un coup, pour ça, je crois, pour ça, je crois pas. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Il dit pas simplement inconstant dans sa vie de prière, parce que le contexte, c'est la prière ici. Il dit inconstant dans toutes ses voies. Donc toute sa vie est floue, toute sa vie est confuse. Un œil en bon état, dans le contexte ici. Quand vous repensez à ce que pasteur Matthieu a partagé par rapport à Mammon, à servir Dieu, en mouvement avec le vrai Dieu. Un œil en bon état. Ici, lorsque Jésus parle ici, ça représente une vie qui est totalement consacrée au service de Dieu. Au service exclusif de Dieu. Enlevez de votre tête qu'il y en a certains qui sont à plein temps et d'autres à temps partiel. Il n'y a pas de temps partiel dans la vie chrétienne. Si je suis chrétien, je suis employé à son service à plein temps. Quelle que soit la forme que ça prend sur terre. Je suis un chrétien à plein temps. Je suis un adorateur à plein temps. Je suis un intercesseur à plein temps. Je suis tout simplement un enfant de Dieu, un chrétien à plein temps. Et ma vie est consacrée totalement au service exclusif de Dieu. C'est ce que signifie saint. Est-ce que vous êtes appelé saint? Est-ce que vous êtes saint? Et il faut comprendre ces choses-là. Est-ce que vous êtes juste? On a été appelé saint, c'est fait, c'est acté. Nous sommes le peuple saint de Dieu. Saint veut dire ce que je viens de dire. consacré totalement au service exclusif de Dieu. Il n'y a pas un peu Dieu et un peu moi, un peu le monde et un peu Dieu. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Donc ma perception spirituelle est crucial. Et aujourd'hui, malheureusement, vous le savez, on le voit tout autour de nous, même ça peut nous arriver parfois, beaucoup de gens ont perdu l'espoir. Beaucoup de gens n'ont plus de vision spirituelle, n'ont plus de rêve, ils n'ont plus d'objectifs, soit pour leur propre vie, pour leur famille. On a perdu espoir sur la famille, sur le couple, on a perdu espoir pour parfois nos églises, malheureusement, pour notre ville, pour notre nation. On devient passif et on perd espoir. Et beaucoup ne voient pas la fin du tunnel. On n'a plus d'objectifs dans la vie. On n'a plus de vision spirituelle. Pourquoi ? Parce que notre image du futur, quand on en a une, elle est floue. Elle est confuse. Beaucoup sont devenus spirituellement aveugles. Et je ne parle pas du monde. Le monde, la Bible dit que ce sont des hommes et des femmes, l'homme naturel. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu de toute façon, puisqu'il est naturel, il n'a pas été régénéré. Je parle malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont devenus spirituellement aveugles. Et dans le texte qu'on a lu, là, dans Jean chapitre 9, c'est un peu l'ironie, c'est un peu, j'ai envie de dire, l'humour de Dieu. L'homme qui va le percevoir le mieux, c'est celui qui est aveugle. De tous les personnages qui vont être impliqués dans Jean chapitre 9, il y en a beaucoup, il va y avoir les pharisiens, il va y avoir les parents, il va y avoir les amis, il va y avoir les disciples. De tous ces hommes-là, celui qui va percevoir le mieux dans l'esprit, c'est l'homme qui est aveugle naturellement. Parce que souvent, ma perception spirituelle, pour qu'elle soit claire et nette, va nécessiter que je devienne aveugle à ce monde. Et lui va pouvoir littéralement voir Jésus pour qui il est, alors qu'il ne voit pas dans le naturel, et donc il va pouvoir recevoir quelque chose de précieux de la part de Jésus. Alors voici la vérité. Comment tu perçois demain, c'est ce que tu expérimenteras de demain. Comment je perçois mon futur va être ce que je vais expérimenter. C'est pour ça que ma perception spirituelle, ce que je perçois, est cruciale. Alors bien sûr, on veut tous voir ce que le futur nous réserve. On voudrait tous être capables de voir comment Dieu veut que j'agisse dans telle ou telle situation. Ou on aimerait tous voir Jésus quand je souffre, quand je galère, quand je ne comprends pas une situation. J'aimerais comprendre, voir comment il travaille. On aimerait tous voir, percevoir. Mais ce miracle dans Jean 9 va nous donner la clé qui va me rendre ma vision spirituelle. Et voici la clé, on va en parler ce matin. C'est une obéissance radicale et totale à ce que Jésus me dit dans les choses ordinaires de la vie. Voici la clé. Si tu veux ta vision spirituelle claire et nette, une obéissance radicale et totale à ce que Jésus me dit, et parfois dans les choses ordinaires de la vie. Cet homme aveugle va faire trois choses qui vont lui permettre de voir et donc de recevoir de Jésus. Premièrement, il va suivre à la lettre un ordre de Jésus. Ça concerne la voix de Dieu dans ma vie, ce que Dieu me dit. Il va falloir que j'apprenne, si je veux une vision spirituelle claire et donc recevoir de la part de Dieu, il va falloir que je deal avec la voix de Dieu dans ma vie, que j'apprenne à interagir. Deuxièmement, cet homme va relever un défi qui est triple en fait. Il va relever le défi de la foule, il va relever le défi des pharisiens, il va relever le défi de sa propre famille, de ses parents. Ça, c'est ce que l'ennemi essaie de te dire au travers des gens. Si je veux avoir ma vision spirituelle claire, il va non seulement falloir que j'apprenne à dealer avec la voix de Dieu dans ma vie, mais il va falloir que j'apprenne à dealer avec la voix de l'ennemi dans ma vie. Et troisièmement, cet homme va répondre à une question que Jésus va lui poser directement. Ça, c'est ce que moi je dis. Donc si je veux que ma vision spirituelle soit pure, soit nette, soit claire, soit pas confuse, il y a trois voix, la voix de Dieu, la voix de l'ennemi et ma propre voix, ce que je dis, ce que je déclare. Il va falloir que j'apprenne à dealer avec ces choses dans ma propre vie. Cet homme l'a fait, il a obtenu son miracle. Premièrement, il va suivre un ordre de Jésus-Christ, donc ce que Dieu, ce que Jésus lui a dit. Et cet homme va expérimenter un miracle incroyable. On va le lire dans un instant, mais il est dit qu'on n'avait jamais vu ça. C'est la première fois qu'on voyait sur la terre un homme aveugle être guéri. Donc cet homme va expérimenter un miracle littéralement incroyable, tout simplement parce qu'il a obéi à une directive simple de Jésus. Va te laver au réservoir de Siloé. Et c'est toujours là où le miracle commence. Dans n'importe quel domaine de ma vie. Voici ce que je veux te dire. Si tu obéis, tu as un témoignage. Automatiquement. Souvent, on cherche à avoir plein de témoignages. Si j'obéis, j'aurai tôt ou tard un témoignage. Cet homme-là était désespéré, les amis, d'être guéri. Il faut comprendre un peu le contexte. À cette époque, lorsque tu étais aveugle, né aveugle ou que tu devenais aveugle, c'était considéré par tout le système religieux qui était important à l'époque. Le système religieux régissait tout, toute la vie, même sociale, économique, tout. C'était considéré par le système religieux comme la punition ultime de Dieu. C'est que tu étais tellement mauvais, tellement pécheur, tellement méchant que Dieu te rejetait. Et donc il était courant, vous allez comprendre pourquoi ce que Jésus fait plus tard, mais il était courant que quelqu'un passe devant un homme aveugle et lui crache au visage. C'était la coutume, parce que c'était le signe que cet homme était rejeté, il était méprisé. Donc il n'avait accès à rien, il était bien sûr extrêmement pauvre, il ne pouvait pas travailler, il n'avait accès à absolument rien. C'était le rejeté de la société. Cet homme entend parler de Jésus, il est clairement désespéré pour être guéri. Et là, il va se retrouver face à Jésus. Imaginez ce qui se passe dans sa tête. Je crois qu'il peut s'imaginer dire, allez, il va prononcer la guérison. Il va chasser l'esprit d'infirmité, il va prononcer la guérison. Je ne sais pas à quoi il s'attendait, mais il s'attendait à quelque chose que Jésus lui dise, c'est qu'il soit guéri, quoi. Mais Jésus n'a pas donné une parole de guérison, il a donné une parole d'instruction. Écoutez bien ceci. Ton miraculeux, ta guérison, ta délivrance est cachée dans l'instruction que Jésus t'a donnée. C'est extrêmement important. Va te laver à la piscine de Siloé. Et ça, c'est un événement pour lui inattendu, pour cet aveugle. Pourquoi ? Parce que ça allait premièrement l'obliger à se lever. Le texte dit qu'il était assis et qu'il mendiait. Il va falloir qu'il se lève. Il va falloir qu'il se mette en mouvement. Va te laver à la piscine de Siloé. Il va falloir qu'il se fasse conduire, il ne voit pas. Donc il va falloir qu'il marche, non par la vue, mais par la foi. Pour lui, littéralement. C'est ça la foi. La foi, c'est ce qui me permet de collaborer avec ce que Dieu me dit. C'est ce qui me permet de collaborer, de me mettre en mouvement avec la voix de Dieu. Et si je fais ça, vous allez le voir, tôt ou tard, la voix de Dieu prend une forme. Elle libère le miraculeux, elle prend la forme de ce que Dieu m'a dit dans ma vie. Mais cela demande ma collaboration. Jésus ne sera jamais soumis à mes attentes envers lui. Par contre, moi, je suis soumis à ses attentes envers moi. Rappelons-nous toujours, on a tendance dans nos vies à renverser le rôle, mais je suis l'argile et il est le potier. Cet homme s'attendait certainement à une parole de guérison, soit guéri. Ça nous parle des méthodes qui sont différentes que Jésus utilise. Jésus a utilisé tout le temps des méthodes différentes. Mais Jésus ne va pas donner une parole de guérison. Il va le faire parfois dans les évangiles, cette fois-ci il ne le fait pas. Il donne une parole d'instruction. Est-ce que ça aurait été difficile pour Jésus de dire « sois guéri » ? Jésus veut nous expliquer qu'il y a un mécanisme spirituel pour vivre notre vie chrétienne. Ici, il est question, bien sûr, de vision naturelle, mais vous savez qu'il y a des couches et des couches de révélation dans la parole de Dieu. Cela parle aussi de notre vision spirituelle. Il va falloir que j'apprenne à collaborer avec la voix de Dieu. Alors, Jésus va faire de la boue. Comme je vous le disais, Dieu a différentes méthodes dans nos vies. Mais le vrai miracle, ou le miracle, n'est pas à cause de la boue. Cet homme n'a pas été guéri à cause de la boue. Cet homme a été guéri parce qu'il a obéi. Tout simplement. Et Dieu a différentes méthodes. Le vrai miracle, oui, il a été guéri dans le naturel, il a recouvert la vue. Mais le vrai miracle, c'est que cet homme a été dépendant de ce que Jésus lui a dit. Sans poser de questions. Et pourtant, il en avait. Voici ce que j'aimerais vous dire ce matin. On sera toujours dans l'aveuglement spirituel dans nos vies si on fait confiance ou si on met nos yeux sur les méthodes. Et je veux le dire aussi de façon prophétique, parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose, je pense qu'il va tous nous chambouler, qu'il va un peu chambouler nos raisonnements. Il va y avoir des méthodes qu'on n'a jamais vues, des méthodes qui vont nous bousculer. Mais si je garde mes yeux sur les méthodes, je resterai aveugle spirituellement. Mes yeux doivent être sur la personne de Jésus-Christ seulement. Fixe tes yeux sur Jésus et sur ce qu'il me dit. Vous savez, Jésus a souvent dit dans les évangiles qu'il en soit fait selon ta foi. Vous avez vu ça ? Jésus peut ordonner la guérison, peut ordonner l'infirmité de quitter, mais il va souvent dire qu'il en soit fait selon ta foi. Parce que la foi va toujours demander un pas réel et tangible. Il y a exemple sur exemple dans la parole de Dieu. Je crois que Pasteur Matthieu en parlait aussi dans un de ses messages, mais lorsqu'il va dire à Josué, à tout le peuple, traversez le Jourdain, il a fallu que les prêtres qui devaient marcher devant, alors que à cette époque le Jourdain regorgeait d'eau, il a fallu qu'ils posent leurs pieds dans l'eau. Et je crois que le mot qui est utilisé, c'est le mot mouiller. La foi te mouille. Il va falloir se mouiller. Et c'est au moment où ils ont posé les pieds que les eaux se sont séparées. Parce que c'est un principe spirituel. Pas avant, au moment où tu te mouilles. Au moment où tu te mets en mouvement. Donc, être un disciple de Jésus-Christ, parce que c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous, que nous soyons ses disciples. Il veut que nous soyons des disciples et que nous fassions des disciples. C'est la seule mission qu'il a donnée à l'Église. Donc pour être un disciple de Jésus-Christ, être un disciple de Jésus-Christ, ça ne signifie pas simplement être d'accord de façon générale avec tout ce que Jésus a dit. On est fort pour ça. Alors moi, je suis d'accord. Moi, Jésus parle bien. On est d'accord. Non, être un disciple, c'est obéir radicalement et de façon complète à ce qu'il m'a dit. C'est très différent. Il y a beaucoup qui sont d'accord aujourd'hui. On rentre même dans une ère où on commence à ne plus être d'accord. Mais ça, c'est autre chose. Mais nous, on se contente d'être d'accord. Non, Jésus dit, obéis. C'est totalement différent. Voici ce que cet homme va dire. Il va être inquisitionné, parce que c'est vraiment le mot, par la foule, par les pharisiens. Il va dire, au verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. » Le gars, il connaît rien de Jésus. Hein. Il vient juste expérimenter ce qu'il a expérimenté. Voici ce qu'il dit. « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore, d'autres versions disent « adore », et fait sa volonté, on parle d'obéissance, c'est celui-là qui l'exauce. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Quel est l'homme qui recevra quelque chose de la part du Seigneur ? Celui qui adore et fait sa volonté, qui obéit. C'est pour ça que Jésus va dire, le Père cherche de vrais adorateurs. Je vais peut-être vous choquer, mais le Père ne cherche pas des adorateurs. Le Père cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi ? Parce que mon adoration s'exprime par mon obéissance. Si vous voulez un synonyme biblique de l'adoration, c'est obéissance. Plus j'obéis et plus j'adore. Je n'adore pas qu'avec mes chants. C'est vraiment très limité. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, il n'y a aucune mention qui dit que Jésus a adoré. Vous avez remarqué ça ? On voit Jésus rendre grâce, on voit Jésus louer, rendre grâce, on voit Jésus prier, mais jamais il est dit que Jésus a adoré le Père. Pourquoi ? Est-ce que Jésus n'était pas un adorateur ? Jésus est l'homme, le plus grand adorateur que la terre ait porté. Parce que Jésus vivait sa vie avec une obéissance radicale et totale à la volonté du Père. Au point même qu'il a pu dire, non pas ma volonté, mais ta volonté, au moment le plus difficile de sa vie. Donc Jésus vivait l'obéissance totale et radicale. Et c'est pour cela que c'était l'adorateur par excellence. Vous savez, ça c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment comprendre. C'est une dimension de notre vie chrétienne. La Bible parle de sacrifice de louange. Vous avez entendu cette expression ? Offrons-lui des sacrifices de louange. Ça, ce sont des choses que l'on offre à Dieu, des actions de reconnaissance, de gratitude, et on déclare qui il est, alors qu'on est en train de vivre le chaos. On a pas de preuve à ce que Dieu nous a dit, on est dans le chaos, mais on veut s'appuyer sur qui il est. C'est extrêmement bon. Et il y a des répercussions dans le monde de l'esprit quand on fait ça. Mais la Bible ne parle jamais de sacrifice d'adoration. Pourquoi ? Parce que dans l'adoration, je deviens le sacrifice. Dans l'adoration, c'est ma vie qui est sur l'autel. Et je dois vivre une vie d'obéissance. Jésus l'a vécu, il est même devenu le sacrifice. Obéissance radicale. Alors, Jésus va lui dire au verset 7, Jésus lui dit, voici l'instruction que Jésus donne à cet aveugle. Va te laver la figure, à la piscine de Siloé. La piscine de Siloé était située à l'intérieur des murs de Jérusalem. Ce mot signifie envoyé. Donc, Siloé signifie envoyé. Et là, moi, je trouve ça extraordinaire. On est d'accord qu'il n'y a rien d'anodin dans la parole de Dieu, qu'elle a été inspirée par le Saint-Esprit, du début à la fin. Dieu nous demande de collaborer, d'étudier. Il y a plein de trésors, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, que l'on peut découvrir. Mais ici, le Saint-Esprit prend le temps de le faire pour nous. Le Saint-Esprit ne nous dit pas, besoin d'aller chercher dans Logos, pas besoin d'aller chercher dans les lexiques grecs et hébreux, je vais te dire ce que signifie le mot. Il prend la peine de nous dire que Siloé signifie envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien ceci, il y a une clé. Lorsque Jésus parle, lorsque Jésus donne une instruction, une directive, cela fait de toi automatiquement quelqu'un d'envoyé. Automatiquement. Quand Jésus parle, il t'envoie. Et quand il t'envoie, c'est automatique, il te donne l'autorité pour dealer avec la situation dans laquelle il t'envoie. Donc il y a trois notions qui sont une notion. Jésus parle, Jésus t'envoie, Jésus te donne l'autorité. Et ça, c'est extrêmement important. En d'autres termes, dans la parole que Dieu t'a donnée, il y a tout. Tu es envoyé, donc tu as tout le backup du ciel et tu as toute son autorité. Jésus va dire, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et ensuite, il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il va parler des signes qui accompagneront ceux qui auront cru, etc. Jésus envoie lorsqu'il parle. Il envoie et il te donne l'autorité. Qu'est-ce qui va libérer l'autorité, la puissance, le miracle? C'est mon obéissance. Donc nous avons déjà tout. Est-ce que vous avez au moins une promesse, une parole de la part de Dieu? Qu'elle soit révélée par des prophéties, qu'elle soit révélée dans vos temps avec Dieu par la parole, tout simplement déjà ce qu'il nous a dit déjà dans sa parole. Nous avons déjà l'autorité, nous avons déjà tout. La seule chose qu'il faille, c'est mon obéissance pour libérer la puissance que renferme cette parole. J'ai déjà absolument tout. L'obéissance libère le miracle. L'obéissance libère la puissance. L'obéissance libère la puissance. Et il est important, et je finirai sur ce point-là, il est important de faire exactement ce que Jésus dit de faire. Il ne faut vraiment pas prendre à la légère les détails. Quand Jésus a dit à l'homme d'aller à la piscine de Siloé pour se laver la figure, il ne lui a pas dit, après avoir mis de la boue sur lui, il a dit « Frotte rapidement tes yeux avec ton t-shirt et va chercher un coin d'eau et rapidement, dès que tu trouves de l'eau, lave-toi la figure. » Il lui a dit « Va au réservoir de Siloé. » C'est pas n'importe quel réservoir. « Va au réservoir de Siloé. » Quand Jésus nous dit quoi faire, on doit prêter une attention particulière même aux moindres détails. C'est vraiment important. Même si ces détails nous paraissent ordinaires ou illogique parfois. Et si on regarde la parole de Dieu, c'est partout. Le premier miracle de Jésus, les noces de Cana, c'était même pas le temps défini par le Père pour que Jésus manifeste qui il était, donc qu'il fasse des miracles. Marie vient le voir, vous connaissez l'histoire, il manque du vin. Marie vient le voir et Jésus va trouver quelque chose dans le cœur de Marie. Qu'est-ce qu'il va trouver? La foi. La foi qui permet même à Jésus de sortir d'un timing. Et il va le faire. Mais qu'est-ce que va dire Marie au serviteur? Parce que le miraculeux, bien que Jésus ait voulu sortir de son temps, ce qui a garanti le miraculeux, c'est ce que Marie a dit au serviteur. Faites tout ce qu'il vous dira. Tout. Et c'est illogique. Remplissez d'eau les jarres. C'est au moment où ils l'ont fait, ils ont puisé l'eau, que l'eau s'est transformée en vin. Pas avant, pas après, au moment où ils l'ont fait. Faites tout ce qu'il vous dira. Je pense à Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain. pas 5, pas 6, 7, et pas n'importe quelle rivière, le Jourdain. Fou, incompréhensible, Jéricho. Faites le tour de la ville. Septième jour, 7 fois le tour de la ville. Au point même que Josué va demander au peuple, fermez la bouche. Parce que vous serez tenté de discuter, vous serez tenté de raisonner. Ça nous a coûté cher, la génération d'avant. Donc si on veut que le miracle se produise cette fois-ci, condition, obéissez exactement et fermez la bouche. Et le miracle a eu lieu. Je pense à des hommes comme Noé. Noé qui reçoit une parole folle de la part de Dieu, construit une arche. Si on regarde dans la Bible, quelques versets. Voilà la prophétie que reçoit Noé. Maintenant tu te mets au travail pendant 100 ans. Et il est fort probable qu'en 100 ans, il n'a pas eu une autre parole de Dieu. Donc je pense qu'il y a eu un moment de douter. Hein, en 100 ans, avec les moqueries, les railleries, etc. Pendant 100 ans, il s'est basé sur une parole de Dieu. Et à cause d'une obéissance folle et radicale à une parole de Dieu, on est là aujourd'hui. L'obéissance à une parole de Dieu. Moïse et le tabernacle. Voici comment tu vas construire le tabernacle. Des choses folles. Mais au détail, à la précision. Pareil pour Salomon. Quand ça a été fait, la gloire de Dieu est descendue. On veut la gloire de Dieu ? Obéissance radicale. Obéissance radicale, gloire radicale. Alors deuxièmement, premièrement, ce que Dieu me dit. Il va falloir que je deal avec ce que Dieu me dit. Deuxièmement, il va relever un défi. Celui de la foule, celui des pharisiens et celui de la famille, sa propre famille. Ça, c'est ce que l'ennemi essaye de me dire. Le défi de la foule. La parole que Dieu va me donner, la parole que Dieu va te donner, elle va te tester. Ça, c'est un principe spirituel. En fait, la parole que Dieu te donne va te mener directement au combat. Elle va te tester. Cet homme-là, imaginez le contexte, a dû affronter le ridicule. J'ai envie de dire comme chaque jour. Il a fallu qu'il compte sur d'autres personnes pour le mener. J'imagine tout ce qu'il a dû encaisser juste sur le chemin pour y aller. Les moqueries, les railleries, comme d'habitude, les doutes. Et même d'ailleurs, après le miracle, la foule, elle doute encore. Les religieux sont sceptiques. Ceux qui le connaissent, ses proches, qui le voyaient tous les jours, sont encore sceptiques. On va lire ensemble au verset 8. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dire « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient « C'est bien lui », d'autres le niaient « Ce n'est pas lui ». C'est quelqu'un qui lui ressemble. On est fort parfois. Quant à lui, il disait « C'est bien moi ». Alors on le questionna. Il faut se rendre à l'évidence, les amis. Quand tu vas te mettre à obéir à la parole que Dieu t'a donnée, on va te questionner. Alors on le questionna. « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit, l'homme qui s'appelle Jésus, voilà la connaissance qu'il avait de Jésus, hein. L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Et voilà la clé. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Voilà la réalité de la vie chrétienne. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. La foi rend les choses possibles. La foi ne rend pas les choses faciles. C'est différent. La foi rend les choses possibles. Encore une fois, j'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Je crois, j'ai entendu aussi plusieurs prophètes dire ça, reconnu aujourd'hui. L'année 2022 est l'année du soudain. L'année 2022 est l'année du d'un coup. Mais ça va se reposer sur mon obéissance à ce que Jésus m'a dit. Ceux qui vont se mettre en mouvement avec la parole que Dieu leur a donnée vont vivre cette année les d'un coup. D'un coup, j'ai vu clair. Soudainement, la barque était au milieu du lac. Ils galéraient toute la nuit. Jésus rentre dans la barque d'un coup, la Bible dit. Ils arrivèrent de l'autre bord. Les soudains de Dieu sont ceux cette année pour ceux et celles qui vont obéir de manière radicale à ce que Dieu dit. Alors la foule On l'a vu, ils n'ont pas l'air très excités. Hein. Ils n'ont pas l'air très enthousiastes. D'ailleurs, ça ressemble plus à une inquisition qu'à une célébration. Hein. Ils ne pouvaient pas le croire. Pourquoi ? On parle de perception spirituelle, de recevoir de la part de Dieu. Qu'est-ce qui m'empêche de voir ? La foule ne pouvait pas le voir. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'était arrivé. Ce qui était arrivé ne s'était jamais produit avant. Et là, je veux vous le dire de manière aussi prophétique. Personne qui était né aveugle n'avait été guéri. Verset 32 le dit. « Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. » Donc, pour la foule, ce n'était pas possible. Parce qu'ils ont laissé leur expérience déterminer ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Et il y a des choses, je le crois de tout mon cœur, que le Saint-Esprit, que Dieu va faire dans son Église, qui vont nous chambouler, qui vont nous étonner. Et si on se base sur les méthodes du passé, si on se base sur nos expériences, on va louper ce que Dieu fait, on ne pourra pas voir clair. Et parfois, on vit dans l'obscurité parce qu'on est convaincu que la lumière est impossible. Alors que quand je me mets en mouvement avec la parole que Dieu me dit, que Dieu me donne, vous savez, le monde de l'esprit le voit. Quand je prends la parole de Dieu que j'ai entendue et que je me mets en mouvement, que je pose des actes, que je commence à obéir, ça libère un son dans l'esprit. Et ce son-là, c'est ce son qui active les anges. Tant que je porte la parole en moi, l'ennemi va peut-être te faire tomber, mais tu te relèves et tu avances. Tu es à terre, tu te relèves et tu avances. Tant que tu avances avec la parole que Dieu te donne, les anges sont là. Les anges entendent le son. L'ennemi entend ce son et ça le terrifie. C'est pour ça qu'il veut t'arrêter. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Cette lumière est la vie pour les hommes. Jésus est la parole incarnée et il est la lumière. Mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de l'étouffer. Ce que l'ennemi veut faire, c'est étouffer la lumière. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je suis en mouvement avec la parole que Dieu m'a donnée, cette lumière brille. La lumière jaillit. Et cette lumière qui jaillit, l'ennemi ne peut pas la comprendre. L'ennemi ne peut pas l'étouffer. C'est impossible pour lui. Donc, reste en mouvement. Si tu veux protéger ta vision spirituelle et la garder pure, est-ce qu'on peut dire, ce matin, c'est ma prière, c'est mon désir, je veux, dans ces temps de la fin, je crois que nous sommes vraiment rentrés dans les derniers des derniers jours. Ma vision spirituelle doit être claire, doit être nette, elle doit être pure. Il va falloir que je protège mon cœur et mes pensées. Le combat, il est là, les amis. Laissez-moi vous dire ceci, les pensées sont gouvernées essentiellement par trois choses. Par l'observation, ce sur quoi je pose mes yeux, par l'association et l'enseignement. Donc, association, les relations, l'observation et l'enseignement, ce que j'écoute. C'est vraiment important que je dois de rester loin de toutes les choses, toutes les associations, toutes les personnes, tous les enseignements qui ne s'alignent pas avec ce que Dieu m'a dit. Dans ce temps, c'est extrêmement important. À quoi je prête mes oreilles ? À quoi je prête mes yeux en ce moment ? Aux infos ? Je vais le dire. Aux réseaux sociaux ? Je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Mais je vous le dis, je le crois de la part du Saint-Esprit, c'est un danger pour l'Église dans ces temps de la fin. Si, et je vais le dire de façon radicale, si tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux ou sur les infos ou sur les journaux que dans la parole et dans le temps avec Dieu, c'est que tu es en sérieux danger. Tu es en sérieux danger. Il est temps, les amis, de se réaligner. On ne vit pas des temps cool et Raoul. On vit des temps, littéralement, où je crois à Jésus, à la main sur la poignée. Il faut que notre vision soit claire. L'ennemi numéro un de Satan dans ces temps de la fin, c'est la séduction, l'illusion. Il veut te séduire, il veut flouer ta vision. Pour, s'il peut, te remplir d'anxiété, de peur, d'inquiétude. L'inquiétude, c'est simplement le fruit qu'une vision a été flouée. Je vois plus clair. Paul va dire, 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements. Le mot, c'est logismos, c'est les façons de penser. Les pensées logiques et rationnelles, on les renverse. Et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière, captive, pour qu'elle obéisse à Christ. Donc focalise ta pensée sur ce que Dieu t'a dit. Refuse le doute. Le doute vient de Satan. Point. On ne peut pas rationaliser le doute. Soumets-toi à Dieu. Résiste le diable et il fuira. Première action, soumettez-vous à Dieu, obéis. Mets-toi en mouvement avec la parole qu'il t'a dit. Et il va falloir que tu résistes parce qu'il va te résister, l'ennemi. Donc le combat vient après que tu t'es soumis à Dieu. Avant, c'est partie de plaisir pour l'ennemi. Parce qu'il ne te résiste même pas, en fait. Il n'a même pas besoin de te résister parce qu'on ne se soumet pas. Mais si je me soumets, le vrai combat commence. Et si je résiste, alors il fuira. Ça, c'est le défi un peu de la foule. Défi des pharisiens. Jean 9, 13. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Aïe, 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 malheur à Jésus. Il a fait ça un jour de sabbat. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, il m'a mis de la boue dans les yeux. Je me suis lavé et maintenant j'y vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet homme ne peut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Vous savez, il y a quelque chose sur la religion, sur le système religieux en fait, et je vais vous le dire cash, ils s'en fichent de toi. Ce qui l'énerve, c'est Jésus. Ce qui l'énerve, c'est l'onction. C'est la puissance de Dieu. En fait, le système religieux, l'esprit religieux n'en a rien à faire de toi et de moi. Aucune compassion pour nous. Il a un objectif. Il est anti-onction. Il est anti-puissance. Il veut pas de tout ce qui est vide l'esprit. Parce qu'il dit, ici, ils n'attaquent même pas l'homme aveugle, ils attaquent Jésus. Cet homme, Jésus, ne peut pas venir de Dieu. Puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Ce qui peut m'empêcher de voir spirituellement, c'est le système religieux dans lequel j'ai évolué. Et là, les amis, je ne parle pas uniquement d'un système extérieur, il en existe, on l'a tous plus ou moins connu. Je parle du système interne, religieux. Et là, tous, nous sommes tous concernés, moi le premier. Le système religieux dans lequel j'ai évolué, sur lequel peut-être j'ai bâti ma vie, les règles établies par les hommes, la routine, la suspicion, aïe aïe aïe, la suspicion. On est souvent rempli de suspicion, on appelle ça discernement. La suspicion est à la chair ce que le discernement est à l'esprit. Suspicion. Donc ce qui peut m'empêcher de voir spirituellement, c'est le système religieux. Ici, le miracle le plus incroyable de l'histoire à cette époque, c'est jamais arrivé, a eu le malheur d'arriver un samedi. Littéralement. Parce qu'à l'époque, faire de la boue avec de la salive crachée, c'était considéré comme un travail. Littéralement. Parce que la religion, cet esprit religieux, va t'amener à penser ta vie chrétienne, l'église, le ministère, le service, comme un travail. L'ennemi veut t'amener là. C'est un travail que tu fais pour Dieu. Et non comme le débordement de qui tu es en lui. Le débordement de sa vie en toi qui coule au travers de toi. D'ailleurs, Jésus a guéri, on le voit dans la parole, beaucoup de gens le jour du sabbat. Parce que pour Jésus, le vrai sabbat, c'est de s'occuper des autres. Le vrai sabbat, c'est de libérer l'onction. C'est ça le vrai sabbat. Donc qu'est-ce que fait la religion ? La religion, elle garde la forme. La religion, elle garde la structure d'une chose. Mais elle n'a pas le fond. Elle n'a pas la substance. Elle n'a pas la vie. C'est-à-dire que je peux lire ma Bible. Je peux venir aux célébrations. Je peux participer même aux activités de l'Église et activement, je peux chanter des chants au sujet de Dieu sans pour autant jamais rencontrer Jésus réellement et lui confier vraiment ma vie. Et cela, c'est dramatique pour moi. Pourquoi ? Parce que ça m'empêche de voir les choses comme Jésus les voit. ça me floute ma vision. Et donc, je ne peux pas recevoir. Et on s'étonne, et on dit, mais on prie, on ne comprend pas, mais on ne reçoit pas, et pourquoi ? Oui, il y a parfois, il faut de la persévérance, ça c'est sûr. Mais parfois, simplement, on ne reçoit pas, parce que notre vision spirituelle, elle est complètement floutée. Nos yeux ne sont pas sur le bon objectif, sur le bon focus. Et Paul va être radical, il va dire à Timothée, ces gens-là, qui ont l'apparence de la piété, extérieurement, qui ont tout d'une vie chrétienne, mais qui renie ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Je vous ai dit, protège ton cœur et tes pensées. Association, enseignement, observation. La religion t'aveugle, et c'est ça qui est dramatique. Premièrement, elle m'aveugle, parce qu'on parle ici de perception spirituelle, donc la religion va m'aveugler, et elle me sépare de Dieu. Le mot pharisien veut dire séparer. Elle me sépare de Dieu. Elle m'empêche, donc si je suis séparé de Dieu, elle m'empêche de recevoir de Dieu. Je ne pourrai jamais recevoir de Dieu si c'est le système religieux qui régit ma vie spirituelle. Et la religion en moi me sépare de Dieu et des autres aussi. Et ce qui est dramatique, c'est qu'elle va empêcher les gens qui sont autour de moi aussi de se connecter à Dieu. Parce que Jésus va le dire aux pharisiens, et non seulement vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu, mais en plus, vous empêchez les autres d'y entrer. Vous êtes comme des aveugles qui conduisent des aveugles. Parce que votre vision est plus bonne. Elle n'est plus claire. Et la religion, dernier point sur la religion, elle cherche à tout raisonner. Et ça, là, Jésus, la vie de l'esprit n'est pas contre la raison, n'est pas contre la pensée. C'est juste qu'elle dit qu'il y a une pensée supérieure, celle de Christ. C'est tout. Jésus n'est pas contre ta pensée. Jésus te dit, il y a une pensée supérieure à ta pensée, la mienne. Donc, vivre le royaume, c'est vivre la pensée de Christ, constamment. Et elle va imbiber au fur et à mesure nos pensées. Mais la religion cherche à constamment tout raisonner. Vous avez vu la première question des disciples ? Pourquoi il est comme ça ? C'est lui qui a péché ou c'est ses parents ? Voici le syndrome de la religion. Comment savoir si je suis régi par un système religieux ? J'appelle ça, moi, le syndrome de l'un ou l'autre. J'ai une décision à prendre. Ok, c'est ou ça. Ce travail ou ce travail. Ça ou ça. Ou alors je vis quelque chose, ça peut être ça ou ça la cause. Et Jésus dit ni l'un ni l'autre. Avec Jésus, il y a une troisième option. Mais celle-là, elle se capte dans l'esprit. Elle ne se captera pas sur le plan naturel. Et je me dis parfois, nous, on raisonne et on a tous nos choix devant nous. Et est-ce qu'on prend le temps de dire, et toi Jésus, c'est quoi ta solution? C'est quoi ton explication? C'est quoi ta raison? C'est quoi ta décision? Nous, on est toujours très vifs. C'est ou ça, radical. Mais avec Jésus, c'est ni l'un ni l'autre. Qui aurait pu penser à cette réponse? Mais pour que la gloire de Dieu éclate. Les disciples n'avaient pas vu celle-là. Parce qu'elle se capte dans l'esprit. On ne peut pas l'expliquer. Et enfin, rapidement, le défi de la famille. Jean 9, 18, 23. C'est prophétique aussi. Parce que l'ennemi sait comment nous avoir. Par les gens qui sont proches de nous. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ?» Ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Sympa les parents. Nous, on veut rien avoir avec ça, comprend pas tout. Allez, on prend surtout pas responsabilité, on lâche le fils dans l'arène. Interrogez-le. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avait déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus-Christ pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Alors, là, je vais vous parler d'un géant, d'accord ? L'une des choses les plus communes qui nous empêche de voir spirituellement, c'est la peur. Et c'est bien souvent pour cela qu'on n'agit pas, qu'on ne se met pas en mouvement avec la parole que Dieu nous a donnée. Parce qu'on a peur. Et les parents, les propres parents de cet homme aveugle ont fait face à cela. Ils savaient qui avait guéri leur fils. Bien sûr qu'ils savaient que c'était Jésus. Ils n'ont pas voulu le dire. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la peur d'être exclus de la synagogue. Alors nous, on lit ça comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire être exclu de la synagogue à l'époque ? Trois choses, très rapidement. Premièrement, quand tu étais exclu de la synagogue, tu perdais ton statut. Tu perdais toute sécurité sociale. Parce que tout le système de protection sociale, le système de l'époque, si vous voulez, de retraite, de ce jour, ben, il était construit sur les synagogues. Donc quand tu es exclu de la synagogue, plus rien. Deuxièmement, tu perdais des marchés. Tu n'avais pas d'offre d'emploi. Parce que tout ce qui était connecté, tout ça, le marché, l'économie, c'était connecté au culte de la synagogue. Le système religieux de l'époque, en fait, régissait tout. Et enfin, tu perdais la communion avec le peuple de Dieu. Tu n'étais plus considéré comme un membre du peuple de Dieu. Tu étais publiquement humilié et rejeté. Donc voilà pourquoi les parents ont eu peur de dire que c'était Jésus. Ils ne l'ont pas dit. Le problème, c'est qu'ils vont... Leur vision spirituelle, bien sûr, n'est pas bonne. Ils ne vont rien recevoir de la part de Dieu. Dans tout le chapitre, il n'y a qu'un homme qui a reçu. C'est cet homme qui était aveugle. C'est un peu l'humour de Dieu. Le seul qui a vu, c'est celui qui était aveugle. La question est la suivante. Est-ce que je suis prêt à tout perdre pour Christ ? Il va falloir répondre à cette question, les amis. S'il me le demande, est-ce que je suis prêt à tout perdre pour lui ? Peur d'être rejeté. En d'autres termes, dans chaque décision de ma vie, dans chaque choix que je prends, quel est l'élément principal ? La peur de manquer ? Le rejet ? Le regard des autres ? La critique ? L'opprobre peut-être ? Ou alors est-ce que c'est Jésus, son royaume, ce qu'il m'a dit, ce que lui désire ? Sur quoi je pose mes yeux pour prendre mes décisions ? Voici ce que Paul a dit. Par la croix, le monde est mort pour moi. Et moi aussi, je suis mort pour le monde. Et il y a deux dynamiques. Par la croix, le monde est mort pour moi et moi aussi je suis mort pour le monde. C'est pour ça que Paul a fait ce qu'il a fait. Un homme mort à lui-même ne peut pas être offensé. Un homme qui est mort à lui-même, il ne peut pas être rejeté. Il est déjà mort. Plus rien ne lui fait peur. En fait, il a déjà tout donné. Il a déjà donné sa vie. Il ne peut rien donner d'autre. Donc il est vendu, il est consacré à Christ. Il vit sa vie littéralement à la lumière de l'éternité. Ça parle de perception spirituelle. Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie a le son, le parfum de l'éternité ? Est-ce que je suis conscient qu'il y a une éternité qui arrive, qui est déjà là d'ailleurs, mais qui va se manifester ? Voici ce que j'ai écrit. La foi, c'est pas seulement croire malgré l'absence de preuves. Nous, dans nos vies chrétiennes, on s'arrête beaucoup à là. La foi, c'est, ok, Dieu m'a dit, je ne le vois pas, il n'y a aucune preuve, mais je crois et je persévère. Et c'est très bien. Mais ce n'est pas seulement ça, la foi. La véritable foi authentique, c'est obéir malgré les conséquences. Je vais redire ça. La foi, ce n'est pas simplement croire malgré l'absence de preuves, c'est obéir malgré les conséquences. Tu sais que si tu fais ça, alors, ça et ça et ça et ça va se passer. Mais tu le fais quand même. C'est ça la foi. Et troisièmement, et je finirai avec ce point-là rapidement, il va enfin répondre à une question que Jésus va lui poser. C'est ça, c'est ce que moi je dis. Donc il va falloir que je dise avec la voix de Dieu, que je me mette en mouvement. Il va falloir que je résiste aux doutes, aux moqueries, attention à mes associations, à ce que l'ennemi veut me dire. Au travers de la foule, au travers du système religieux, au travers de ma propre famille. Et il va falloir aussi que moi je déclare des choses, que moi je fasse retentir ma voix. Jean 9, 35-41. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, l'homme aveugle, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Cet homme-là n'a pas reçu que la guérison physique. Il a reçu quelque chose de bien plus précieux. Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ? Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. et il adora. Cet homme a reçu le salut parce qu'il a une perception spirituelle claire de qui était Jésus. En d'autres termes, quand ma perception spirituelle est claire, il y a tous les trésors du royaume, mais ça me positionne pour quelque chose de toujours plus de la part de Jésus. Toujours. Parce que je garde le canal ouvert de tout ce qu'il a pour moi. Et la perception de cet homme, tout au long du chapitre, elle va évoluer. Malgré la critique, les moqueries, tout le parcours, il va évoluer. Premièrement, il dit un homme qui s'appelle Jésus, dans le texte, quand on lui pose des questions. Ensuite, il dit devant les pharisiens, c'est un prophète. Et ensuite, il va dire à Jésus, Seigneur, je crois. En d'autres termes, Jésus l'a amené à la place dans sa vie où il doit déclarer et recevoir Jésus comme Seigneur. Il est temps pour l'Église de Christ de vivre la seigneurie de Christ. Pas simplement le salut de Christ, la seigneurie de Christ. Parce que c'est ce que Dieu a manifesté dans la fin des temps. Sa seigneurie. Il a dit, Seigneur, je crois. Et pour que tu expérimentes sa seigneurie, son règne, dans n'importe quel domaine de ta vie, tu dois le faire fils de Dieu dans ce domaine. Crois-tu au fils de Dieu? Qui est-il? Il est là devant toi. Ok, je crois, Seigneur. Tu es le Seigneur. Donc voici ce que j'aimerais vous dire. Avant de vous poser quatre questions. Quatre questions. Et ça sera notre temps de ministère ce matin. Dieu m'a vraiment mis à cœur de fonctionner comme ça ce matin. Quatre questions. Et vous pouvez préparer déjà vos carnets, vos stylos. C'est toujours bien de venir à l'église avec un carnet, un crayon, des stylos pour noter. Si vous n'avez pas, prenez votre téléphone. Je vous encourage, notez les choses que Saint-Esprit vous dit. Jésus, je vais finir sur ça, Jésus a utilisé, dans les trois fois où il a guéri un aveugle, il a utilisé sa salive. Vous avez remarqué ça? Il a fait une méthode différente, mais dans les trois fois où il a guéri un aveugle, il a utilisé sa salive. Et je crois essentiellement pour deux raisons. La salive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était l'outil de condamnation. On passait devant un aveugle, on lui crachait dessus. Parce que c'était le signe qu'il était méprisé de Dieu, rejeté de Dieu, que c'était un pourri, qu'il n'y avait aucun espoir pour lui. Il était condamné. Donc on lui crachait dessus. Et Jésus va utiliser l'outil de condamnation pour libérer la guérison. Ça, c'est la manière dont Jésus travaille. Imaginez cet homme, d'accord, qui entend Jésus, et Jésus, désolé pour le son, mais c'est littéralement ce qu'il fait. Il a craché pour prendre de la boue. Imaginez ce qui est passé dans la tête de l'aveugle. Allez, encore un. Encore un. Il aurait pu se fermer à ce moment-là. Il aurait pu rejeter tout ce que Jésus avait pour lui à ce moment-là. Mais Jésus va utiliser l'outil de condamnation pour libérer le miraculeux. Il est celui qui peut faire concourir toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce même verset est dans un contexte de collaboration avec le Saint-Esprit. Est-ce que je vais me lever avec ce qu'il m'a dit? Est-ce que la réconciliation dans mon mariage est possible? Est-ce que la liberté de la culpabilité dans ma vie, elle est possible? Est-ce que le pardon est possible? Est-ce que la guérison de ma blessure, de la trahison est possible? Oui, c'est possible. Si tu fais Jésus fils de Dieu dans ce domaine. Et si tu fais ce qu'il te dit dans ce domaine. C'est possible. Il peut retourner. Jésus est le maître dans l'art de retourner la condamnation en bénédiction. Mais il faut collaborer. Deuxièmement, il y avait une croyance à l'époque. Pourquoi Jésus utilisait sa salive? La croyance était que la salive avait des propriétés thérapeutiques, des pouvoirs de guérison, et en particulier la salive du premier-né. On croyait à l'époque que la salive du premier-né de chaque famille avait des pouvoirs de guérison. Alors, pourquoi Jésus? Parce que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est le Fils de Dieu. Il voulait amener cet homme aveugle à réellement le voir pour qui il est vraiment le Fils de Dieu. Et Jésus va dire ceci, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc quel est le domaine dans lequel tu as besoin d'un miracle aujourd'hui? Fais ce qu'il te dit. Au détail. Obéis, ça va libérer le miraculeux. Et s'il y a une situation chaotique, s'il y a une situation de rejet, une situation de trahison, de blessure, Jésus peut retourner ça. Et même utiliser cette situation précise pour faire éclater sa gloire. Il peut le faire. Mais il faut que je le fasse fils de Dieu, Seigneur, dans ce domaine. Et ça veut dire, vous m'appelez Seigneur, 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 c'est bien. Mais pourquoi alors vous ne faites pas ce que je vous dis de faire ? Fais et tu verras. Alors voici les quatre questions que j'aimerais vous poser et je vous invite à noter. Et si on peut mettre, Fabien, s'il te plaît, juste une musique en fond. Je vous invite vraiment dans ce moment, d'accord, c'est différent ce matin, mais à vous connecter au Saint-Esprit. Parce que l'issue de ce moment va déterminer beaucoup de choses, je le crois, dans votre vie. Première question que j'aimerais que vous écriviez, et bien sûr, le but, c'est d'y répondre. Alors si vous avez la réponse, répondez tout de suite, écrivez. Sinon, c'est chaque question-là, prenez-les dans votre temps avec Dieu cette semaine. Sur le mois, sur l'année, qu'importe le temps qu'il faudra. Mais cherchez Dieu pour ces quatre points-là. Premièrement, quelle est la dernière chose que Dieu m'a dite de faire ? Ou quelle est la chose que Dieu m'a dite de faire ? Prenez le temps de répondre à cette question. Et si vous pouvez, de manière précise. En général, on le sait. Deuxième question. Qu'est-ce que tu as fait depuis ? Où en es-tu par rapport à sa volonté pour ta vie ? Qu'est-ce que j'ai fait ? On n'aura pas forcément le temps physique ce matin de répondre avec détail, mais je vous invite, les amis, réellement, à creuser ces questions avec le Saint-Esprit. Troisièmement, quels sont, selon toi, les obstacles qui t'empêchent d'avancer ? Alors, ça dépend de ce que Dieu vous a dit. Mais si on devait répondre oralement, il est fort probable que 90% diraient les finances. Vous pouvez l'écrire. Là, je vous renvoie à 2-3 semaines au message du pasteur Mathieu. Mais ça peut être de toutes sortes. Rappelez-vous ce qu'on a partagé ce matin. La foule, le rejet, la famille, le système religieux. Ça peut être de toutes sortes. Quels sont les obstacles ? Identifie les obstacles qui t'empêchent d'avancer. Et quatrième question. Et celle-là, on ne pourra pas y répondre de manière légère. Vous l'aurez dans votre temps avec Dieu. Qui est Jésus pour toi face à ces obstacles ? Qui est Jésus pour toi face à ces obstacles ? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit sur ce domaine ? Et que fais-tu ? Donc, à quoi regardes-tu ? Où sont tes yeux ? Que perçois-tu ? Je vais vraiment vous laisser avec cette pensée. Vous savez, Élisée un jour a rencontré une veuve. La veuve, selon ses yeux à elle, n'avait plus rien. C'était fini. C'était la dernière fois. Après quoi, nous mourrons. Plus d'espoir. Elle ne pouvait rien percevoir de bon à ce moment-là. Et Élisée va lui poser une question. Qu'as-tu dans ta maison ? qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et ça va vous encourager, ça va peut-être vous aider à répondre à ces questions. Dieu ne regarde jamais à ce que tu n'as pas. Dieu regarde à ce que tu as. Et ce que tu as est bien plus que ce que tu penses avoir. Ce que tu as est bien plus que ce que tu ne penses peut-être pas avoir. Et c'est bien plus important que ce que tu n'as pas. Pourquoi ? Parce que s'il t'a parlé, tu as sa parole, tu as son instruction, tu es envoyé, tu as son autorité, tu as toute la puissance. Tu as tout ce qu'il faut. Il faut juste que tu obéisses. Et ça va libérer tout ce que cette parole contient. Qu'est-ce que tu as ? Juste un petit peu d'huile. Ça suffit. Fais quelque chose avec ce petit huile. Et laissez-moi vous dire ceci. Qu'est-ce que Élisée a dit ? Okay ? Qu'est-ce que tu as ? Déjà, où sont tes yeux ? Qu'est-ce que tu as ? Refixe tes yeux sur ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu as ? Deuxième chose que Élisée va lui dire, instruction. Va chez tous tes voisins, rassemble le maximum de vases que tu puisses. Rassemble le maximum. Écoutez bien ceci, les amis. Il n'y avait pas de limite sur le nombre de vases. Le prophète ne lui a pas dit « Rassemble 500 vases. » Rassemble le maximum de vases. Elle est allée, elle a pris le maximum de vases, elle a fermé la porte sur elle et sur ses fils, elle a commencé à verser l'huile, elle a commencé à verser ce qu'elle avait. Et alors, l'huile s'est multipliée et l'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de vases. Ma question c'est, et si elle avait un vase de plus, est-ce qu'il y aurait eu assez d'huile ? En d'autres termes, la limite n'est pas sur l'huile. La limite est sur le nombre de vases. En d'autres termes, la limite, elle est sur l'amplitude de ton obéissance. L'amplitude de ton miracle, l'amplitude de ta percée, l'amplitude de la puissance, elle est déterminée par l'amplitude de ton obéissance. Elle est déterminée par l'amplitude de ton énergie. Quelle énergie tu mets dans la parole de Dieu ? Quelle énergie tu mets dans ce qu'il t'a dit ? Quelle énergie, quelle finance tu y mets ? Parce que tout ça, c'est un tout. Ça va déterminer l'amplitude. Le roi Joas tire les flèches. Combien de fois le roi Joas a tiré ? 3 fois. Et Élisée, je crois, Élisée ou Élie, je ne sais plus quel prophète, il va être en colère. Ah, est-ce que Dieu peut se mettre en colère ? Il va se mettre en colère. Il dit, mais tu aurais pu tirer 6 fois. Pourquoi tu n'as fait que 3 fois ? Tu aurais une victoire totale. Maintenant, tu auras une victoire partielle. L'instruction, c'était tire. Le prophète ne lui a pas dit combien de fois. Ça, c'est à moi et à toi de le décider. Lorsque Dieu te parle, l'énergie que tu y mets dedans, les finances que tu y mets dedans, la passion, le zèle que tu y mets dedans, va déterminer l'amplitude de ton miracle. Ça s'appelle la collaboration. Ça s'appelle la vie chrétienne mature. On peut se lever tous ensemble ? Alors, je voudrais simplement qu'on unisse nos foies ensemble. Qu'on demande au Saint-Esprit simplement de souffler sur tout cela et que maintenant ils prennent le relais. Père Céleste, merci pour ta parole. J'aime ta parole. Ta parole est extraordinaire. Ta parole est une lampe à nos pieds et aussi une lumière sur notre sentier. Cette lumière qui éclaire notre vision spirituelle, qui la rend claire. Père, je prie pour ton peuple de manière toute simple. Avec humilité, mais avec foi et avec assurance. Je prie dans le nom de Jésus-Christ maintenant pour que tu libères une portion de courage et de grâce dont ils ont besoin. Je prie cette même prière, Père, que ces mots que tu as prononcés sur Josué alors qu'il était sur le point de conquérir la terre promise. Il y a beaucoup de terres promises qui doivent être conquises ici dans ce lieu. Beaucoup de paroles qui doivent être manifestés, qui doivent prendre une forme. Beaucoup ont entendu ta voix, beaucoup ont reçu tes paroles. Alors je fais cette même prière. Je prie pour qu'ils soient fortifiés. Je prie pour que tu déverses sur eux une portion de courage afin qu'ils puissent agir fidèlement selon tout ce que tu leur as dit, selon tout ce qui était prescrit. qui ne s'en éloignent ni à droite ni à gauche, mais que tu puisses les fortifier et les remplir de courage, qu'ils puissent méditer sur les paroles que tu leur as données, sur ceux que tu leur as révélés concernant ta volonté parfaite pour leur vie. Parce que tu as dit, Père, que lorsque nous agissons fidèlement à tout ce que tu nous as dit, c'est alors que nous réussirons, c'est alors que nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprendrons. Mais libère le courage dont ils ont besoin. Je prie, Père, pour une dose de courage. Je prie pour une dose d'assurance. Je prie pour une dose d'audace, pour qu'ils aient le courage de faire ce que tu leur as demandé de faire. Dans le nom de Jésus. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis.